20 ans après la révolution cubaine, une autre guérilla triomphe. En 1979, au Nicaragua, les sandinistes qui se nomment ainsi en souvenir du héros national, César Sandino, parviennent à chasser le dictateur Somoza, usé par la corruption et soutenu par les États-Unis. Comme le Cuba des Barbudos, le Nicaragua sandiniste devient un état à battre pour les États-Unis. La révolution sandiniste lancera les réformes promises. Alphabétisation, réforme agraire. Au Nicaragua, les réformes sont faites sous le double signe de la révolution et de l'église des pauvres, dont le combat auprès des opprimés a commencé longtemps avant.
Ils vigilent le processus révolutionnaire.
Et non, vous êtes, vous n'avez pas zappé sur Radio Sandino, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors, cette semaine, comme vous avez pu le deviner, nous allons parler du Nicaragua, mais en faisant un petit pas de côté, en voyant l'histoire de ce pays d'Amérique centrale, du point de vue des femmes, et de l'évolution de leurs droits. Pour cela, nous avons rencontré Delphine Lacombe, qui travaille sur les modes de construction de la citoyenneté des femmes dans ce pays.
Llamamos a las mujeres vinculadas al FEM, a las mujeres de AMLAE, a esas diputadas que alguna vez tuvieron un compromiso con las mujeres de Nicaragua, que en la cara, que se rebelen contra el mandato de sus caudillos.
¡Si el Papa pariera!
¡El aborto sería un sacramento!
Si le pape accouchait, l'avortement serait un sacrement. C'est le genre de slogan qu'on pouvait entendre il y a peu dans les rues de Managua. Mais avant de parler des luttes féministes actuelles, Delphine, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton sujet d'étude à Managua ?
Alors, ma thèse porte sur les mouvements de femmes et la façon dont elles répondent aux phénomènes de violence intrafamiliale et sexuelle au Nicaragua. C'est dans ce cadre-là, je suis allée au Nicaragua lors d'un terrain de thèse, en fait. Et donc, je fais ma thèse depuis 4 ans. J'essaie de retracer la formation, la construction de l'agenda sur les violences faites aux femmes, en fait, depuis les années 80 et les années 90.
Donc, avant de parler de la situation actuelle, on a une image du Nicaragua qui est liée aussi à la révolution. Et il y a cette image de la femme qui est tout le temps mise en avant, de la guerrière, à la fois maman. Et est-ce que, quelle était la place des femmes au moment de la révolution sandiniste?
Les femmes ont participé à un tiers, en fait, de l'ensemble des bataillons armés pour en fait destituer le dictateur Somoza, hein, qui était en place, enfin, le Tachito Somoza, donc le petit-fils du premier Somoza, était en place depuis 67, hein, il a été en place jusqu'en 79. Donc elles ont participé à l'effort guerrier et elles ont, indépendamment de l'effort guerrier, construit un mouvement qui s'appelait Empronac, l'association des femmes devant la problématique nationale. Et ce mouvement est intéressant dans l'histoire des mouvements féministes nicaraguayens dans la mesure où il était relativement autonome par rapport au Front Sandiniste de Libération Nationale et où d'une part, il promouvait en fait la destitution de Somoza et d'autre part, se portait en défense des droits humains. Et c'était des femmes, c'était une organisation assez mixte en termes de classe sociale. Et c'est des femmes qui ont largement participé à cette résistance non armée en fait, jusqu'au 19 juillet 79 où Somoza a été destitué non seulement par le Front Sandiniste de Libération Nationale, mais aussi par une large coalition où étaient présentes Violeta Chamorro, veuve de Pedro Joaquín Chamorro, qui dirigeait La Prensa, un journal d'opposition à Somoza, issu d'une famille conservatrice. Enfin, il y avait aussi des gens qu'on pourrait qualifier de droite qui ont porté en fait la lutte contre la dictature des Somoza.
Et au moment où le Front Sandiniste de Libération est arrivé au pouvoir, qu'est-ce que cela a changé d'un point de vue pratique pour les femmes ?
Bah, y a eu une série de lois en fait qui ont été votées. Il y a deux grands moments en fait dans ces années 80, la révolution sandiniste. Il y a ce qu'on pourrait appeler une autorité de facto en fait de 79 à 84. Et puis après les élections nationales présidentielles en 84, une tentative d'institutionnalisation de la révolution. Et l'ensemble des observateurs et des observatrices s'accordent pour dire que la plupart des droits accordés aux femmes, d'une part, ont été accordés parce qu'elles les ont largement revendiqués auprès du Front sandiniste, qui n'était pas forcément, depuis son leadership, reconnu pour ses grandes thèses féministes. Et d'autre part, les droits qui ont été accordés, c'était des droits qui concernaient la famille. Donc d'une part, la reconnaissance de ce qu'on appelle la union de hecho estable, la reconnaissance des liens matrimoniaux indépendamment du mariage, la fin de la patria potestad uniquement aux mains des pères, et une troisième loi qui était, en 83, si je ne me trompe pas, qui était la loi des pensions alimentaires. Donc les premières lois des années 80 et de la Révolution vraiment ont consisté à égaliser en fait les sorts des hommes et des femmes dans la famille. On s'accorde aussi pour dire que dans le cadre qui était celui de la révolution sandiniste avec les contrastes et la contre-révolution en fait financée par l'administration Reagan, on s'accorde pour dire que ces lois sont souvent restées sur le papier en réalité, qu'elles ont très peu été appliquées ou en tout cas avec difficulté au cours des années 80 pour des raisons de situation qui tenaient à la situation nationale en fait. Donc ça c'est les premiers moments vraiment qui ont scellé au moins sur la forme une transformation réelle en termes de statut pour les femmes. Ça c'est une première chose. Beaucoup de revendications ont été faites ensuite par l'association Luisa Amanda Espinosa, ANLAE, qui était en fait une organisation de masse issue d'un PRONAC, en PRONAC ayant été transformé en organisation de masse dès le début, dès 79, dès le début en fait de l'institutionnalisation ou de l'autorité de facto de la Révolution. Et ANLAE a vraiment fait ses revendications au début et ensuite a, on pourrait dire, davantage consacré ses efforts à la défense de la Révolution en tant que telle. Et son slogan était pas de révolution sans les femmes, pas d'émancipation des femmes sans la Révolution et pas de révolution sans l'émancipation des femmes. Cela dit, malgré donc ces efforts au début des années 80, on a constaté que ANLAE faisait beaucoup plus d'efforts pour maintenir la révolution que pour la revendication en tant que telle des droits des femmes. Et en premier lieu, on pourrait dire l'avortement. Ça a toujours été un débat et une revendication qui n'a jamais obtenu satisfaction. En fait, l'avortement dépénalisé complètement, d'une part, et d'autre part, ce qui chapeaute l'ensemble, c'est les droits sexuels et reproductifs et les situations de violence que vivaient les femmes dans la vie privée, dans la sphère privée, et sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel au travail. Et on pourrait dire que même si la révolution au cours des années 80 a permis un accès aux soins pour les femmes, même si les femmes ont largement participé à l'effort de la croisade d'alphabétisation, les revendications autour de ces thèmes-là, qui étaient vécus comme des thèmes centraux, donc violence et avortement, ont pas vu le jour comme les femmes l'auraient souhaité. C'est les femmes qui se sont un peu désolidarisées d'ANLAE. Étaient les femmes de l'ATC, Association de los Trabajadores del Campo. Elles ont fondé la Secretaría de la Mujer, donc une antenne des femmes, plutôt dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié des années 80. Et là, au gré de réunions dans le milieu rural, périphérique, c'était pas des réunions clandestines, mais enfin elles étaient périphériques, elles étaient moins encadrées par le Front Sandiniste de Libération Nationale. Et là, les femmes, en parlant en fait de leurs conditions de travail, ont mis en évidence en fait les formes d'articulation de pouvoir et de domination auxquelles elles étaient assujetties, en fait. Et au gré de ces réunions, elles ont commencé à parler du harcèlement sexuel de la part des sandinistes eux-mêmes, des difficultés à mener une maternité seule, des inégalités salariales, malgré des avancées légales hein, dans ce domaine au début des années 80 de la part du Front sandiniste. Donc voilà. Et donc au fil des années 80, en fait, on a vu une fin d'autonomisation que vous souhaitez pourtant les féministes d'Anlai ou les femmes d'Anlai au profit d'une croissance de l'autonomisation de ces secrétariats de la mujer, mais au final pour constater à la fin des années 80 que des revendications essentielles telles que la pénalisation des violences intrafamiliales et le droit à l'accès à l'avortement n'avaient pas abouti, quoi.
Et au moment de la Révolution, il y avait aussi les maisons des femmes. Et est-ce que au sein des maisons des femmes, il y avait, par exemple, je sais pas, de l'éducation sexuelle ou quel était le rôle de ces maisons?
C'est les Casas de la Mujer qui étaient liées, enfin, c'était les maisons des femmes liées à Anlai. Il y avait beaucoup de Casas de la Mujer. Je crois qu'il y en avait, je connais pas les chiffres, mais en tout cas, il y avait 800 points névralgiques, en fait, dans tout le Nicaragua. Et en gros, l'organisation de masse Anlai a réussi à rassembler plus de 80 000, 85 000 femmes dans l'organisation de masse. Il me semble que ce que l'on faisait dans les maisons de femmes dans les années 80 se rapproche des activités qu'on constate aujourd'hui. Accès aux soins, très, très nettement. Les officinas légales de la mujer étaient rattachées à la Casa de la Mujer. Donc, accès aussi à la justice par cet intermédiaire. Accès à la contraception. Ça, c'est clair que dans les Casas de la Mujer, il y avait, en fait, des organisations locales de femmes qui avaient peut-être plus accès aux soins qu'elles demandaient ou qui pouvaient, par Anlai, entamer des démarches judiciaires.
Et est-ce que cette implication des femmes au niveau politique, au niveau local ou national, s'est retrouvée au niveau de la direction que ce soit au niveau municipal, est-ce qu'il y avait des maires femmes? Est-ce qu'il y avait une place plus importante, par exemple, au niveau des députés ou des ministres à l'époque sandiniste?
Alors, quand il y a eu les élections législatives en 84, il me semble qu'on a compté un peu plus de 20% de femmes à l'Assemblée, et des femmes qui avaient été appelées pour leur rôle politique, plus que pour leur longue instruction. Donc 20% de femmes. Les maires, à vrai dire, je ne sais pas. Il faudrait regarder ça dans les anthologies de la Révolution sandiniste. Il y avait une participation des femmes, oui, enfin au Parlement clairement, et qui avait eu accès au Parlement vraiment grâce à tout de même cette philosophie sandiniste qui promouvait la participation des femmes. Donc les maires, je ne sais pas, les députés, à peu près 20%. Il y a eu des ministres femmes, Dora Maria Tejes, ministre de la Santé, Doris Tijerino, première femme chef de la police dans le monde. Des femmes de premier plan, des guerrières. Leticia Herrera était députée également. Il y a eu des femmes destacadas, comme on dit. Monica Valtodan, enfin des femmes qui avaient été commandantes de la Révolution, d'une part, qui ont eu des responsabilités, et puis vraiment cette participation de femmes à l'Assemblée. Qui jouait un rôle politique. Moi, j'avais interviewé une femme qui a été députée de 84 à 96, donc y compris sous le gouvernement de Chamorro, et qui était encore qui est aujourd'hui très critique du Front sandiniste, mais qui était encore très émue devant son propre récit, en fait, de comment elle a pu accéder à l'Assemblée nationale. Et c'est Carlos Núñez, qui était donc le président de l'Assemblée nationale, qui l'a rencontrée, qui lui a demandé d'être candidate, et elle lui a répondu « Non, mais moi, je peux pas être candidate. Ma formation, c'est de vendre des boissons dans les marchés. Je peux pas être candidate. » Et il lui a répondu « Je te demande pas de faire valoir ton instruction ou ton défaut sous l'emploi d'instruction, je te demande de jouer un rôle politique à l'Assemblée parce que tu as fait partie d'Ambronac, parce que, etc., etc.
La floma linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de virgen, ay Nicaragua, soma dulcita, que la nevita de Tabaga. Pero ahora que ya soy libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya soy libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors cette semaine, nous parlons du féminisme et de la situation au Nicaragua depuis la révolution sandiniste. En 1990, les sandinistes ont perdu les élections et c'est une femme qui a été élue présidente. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les conditions des femmes au Nicaragua ?
Il y a plusieurs choses par rapport. Donc, Violeta Chamorro a été élue le 25 février 90. Elle a basé tout son discours sur la réconciliation et sur la paix après des années de guerre qui ont quand même coûté la vie à 50 000 personnes. Oui, 50 000 personnes au cours des années 80. Son discours a été fondé essentiellement là-dessus, sur la paix, largement amorcé par le cessez-le-feu de 88. Il y avait une peur en fait de la part, y compris même de jeunes sandinistes, qui était le service militaire obligatoire, qui avait enrôlé beaucoup de jeunes gens pour aller se battre contre les contras en fait. Donc son discours a été fondé là-dessus, mais aussi sur une certaine idée de la féminité. basé sur sa propre histoire, en fait. Sa famille a été, c'est le moins qu'on puisse dire, désunie au cours des années 80. Un fils était pour la contre-révolution, l'autre dirigeait Barricada, une fille était à la Prensa, et une autre avait été diplomate, à Cuba. Donc elle incarnait en fait cette toujours vêtue de blanc, enfin un peu l'allusion à la pureté féminine, réconciliatrice, capable de promouvoir et d'instaurer la paix. Elle a même tenu des discours très très clairement anti-valeurs féminines du sandinisme, en fait, puisque enfin on retrouve dans les journaux de l'époque des discours genre je ne suis pas une guerrière, je suis une femme de la maison comme Pedro Joaquín me l'a enseigné, je suis là pour réconcilier la famille nicaraguayenne. Donc elle s'est posée comme ça. Ce qui est intéressant avec Violeta Chamorro, c'est que avec elle, c'est le début d'un certain pluralisme, l'ouverture, on pourrait dire, sans je crois trop caricaturer, une certaine consécration de la société civile. Et donc si les femmes organisées en mouvement dans les années 90 sous son gouvernement se sont heurtées à un antiféminisme très net, promu, vraiment antiféminisme, hein, pas anti-mouvement de femmes, très net promu par Violeta Chamorro et son alliance aussi symbolique et concrète avec l'Église, ces femmes organisées en mouvement de femmes ont eu, grâce à l'ouverture de la société civile et grâce à leur propre effort d'autonomisation par rapport aux Francs sandinistes, l'opportunité de revendiquer autrement ce qu'elles avaient toujours revendiqué. Alors pour l'avortement, c'était un peu compliqué, et ça l'est encore aujourd'hui, j'imagine qu'on parlera ça tout à l'heure. Pour, en revanche, ce qui était la pénalisation des violences intrafamiliales, on a bien vu que ça a été possible de pénaliser la violence intrafamiliale ou les formes de violence intrafamiliale en 95 par une loi qui est la loi 230, qui avait été promue par de nouvelles expressions des mouvements de femmes, à savoir le réseau des femmes contre la violence. Alors certes, c'était peut-être plus facile sur ce thème-là, entre guillemets, plus facile de rassembler la droite comme la gauche autour du discours violenter les femmes dans le cercle familial, c'est mal. Mais quand même, c'était une avancée qui n'avait pas eu... qui n'avait pas donné lieu à une dépénalisation au cours des années 80. Donc, Violeta Chamorro, je crois, par l'ouverture à la société civile, permet une expression nouvelle des mouvements de femmes. En revanche, et alors, au-delà de cette pénalisation des violences intrafamiliales, on a aussi assisté à la pénalisation des viols en 92, avec un très large bémol tout de même, c'est qu'en même temps que la pénalisation des viols a été pénalisée, plus encore pénalisée que ce qu'elle n'était, l'homosexualité, en fait, sous donc la figure juridique de la sodomie, comme c'est souvent le cas. Ce qui tend à prouver, en fait, que une sorte de paradoxe, en fait, en tout cas une mise en parallèle, d'une part, de revendications qui ont pu aboutir autour d'un discours porté par les mouvements de femmes, et en même temps, autour de ces questions-là des violences faites aux femmes, une droite qui s'est aussi saisie de ces revendications au nom d'une morale, en fait, au nom de la moralisation des familles et au nom de la moralisation des rapports sociaux en général. Et c'est pour ça qu'on assiste en plus, dans les mêmes débats, au même moment, sur la pénalisation du viol, on assiste aussi à la pénalisation de l'homosexualité. Donc ça, c'était la teneur, je crois, du gouvernement de Chamorro, bilan assez nuancé, pas forcément complètement négatif, du moins c'est ce que disent non seulement les observateurs, mais aussi les femmes elles-mêmes qui ont participé, par exemple, à ce réseau des femmes contre la violence, qui ont vu qu'elles pouvaient faire aboutir des revendications grâce à une autonomie nouvellement acquise dans une société civile nouvellement ouverte.
Et ces lois qui ont été votées, est-ce qu'elles ont été appliquées ?
La loi 230 est appliquée, très mal, mais en tout cas, elle est, le problème, c'est qu'elle est peu connue, en fait, des juges eux-mêmes. La loi 150, donc pénalisation du viol, peut être appliquée et a été appliquée. L'accès à la justice des femmes, c'est pas... c'est très... C'est à nuancer, je crois, mais oui, enfin, la loi 230 a été dans de maintes circonstances appliquée, oui, tout à fait.
Et après l'époque Chamorro, il y a aussi parallèlement à cette ouverture, il y a aussi, d'un point de vue économique, c'est le retour du... C'est le libéralisme un peu à tout va, et d'un point de vue économique, ça touche énormément les femmes. Est-ce que les femmes se sont organisées pour lutter contre la paupérisation, ou quelles ont été leurs réactions?
Oui, en fait, c'est ce que je... C'était très important, cette question, parce que j'ai tendance à donner peut-être une image un peu positive du gouvernement de Chamorro. Ce qui va avec le gouvernement de Violeta Chamorro, c'est aussi le démantèlement des services aux femmes et à la population générale institutionnalisée par les sandinistes. C'est des restrictions budgétaires énormes, c'est des ajustements structurels qui ont des effets dramatiques sur les femmes et sur leurs conditions de vie, en fait. Et je crois que les mouvements de femmes, donc le réseau des femmes contre la violence, qui a vraiment connu un essor très particulier sous le gouvernement de Chamorro, et d'autres mouvements, ont essayé de mener la bataille sur tous les fronts. Enfin, d'une part, en essayant d'être suffisamment stratégique pour pouvoir faire avancer les revendications dont je parlais tout à l'heure, et en même temps, bien sûr, en critiquant l'avancée terrible du libéralisme, une alliance entre des secteurs, enfin, un nouvel essor des secteurs les plus conservateurs de la société nicaraguayenne, et donc elles ont tenté d'asseoir leur résistance sur tous ces fronts-là. Et bien sûr que, en termes de conditions quotidiennes pour la vie des femmes et des hommes aussi, il est clair que le gouvernement de Chamorro a désandinisé la société nicaraguayenne, et ça allait de pair avec un démantèlement des structures d'assistance aux populations.
Quand tu dis désandiniser, ça veut dire quoi d'un point de vue concret?
Ça veut dire qu'il y avait par exemple des garderies pour enfants, des centres de santé liés à l'État, enfin pas complètement autonomes, qui étaient financés par l'État nicaraguayen, qui ont perdu leurs fonds. Et c'était aussi en fait des relais pour asseoir la légitimité de la révolution, quoi. Donc c'est en ce sens les structures sociales ont été démantelées, et en ce sens je parle de désandinisation.
Est-ce que des femmes, par exemple, ont organisé des crèches parallèles, ont fait des choses autogérées face au démantèlement des structures en place?
Alors, il me semble qu'il y a eu pas mal de collectifs de femmes qui se sont créés au début des années 90. Il y a eu surtout beaucoup de fonds qui étaient déjà là dans les années 80, mais qui se sont accrus au profit de mouvements de femmes locaux qui se sont transformés en ONG et qui ont, dans ce cadre-là, effectivement, permis une certaine institutionnalisation nouvelle, en fait, de ce genre de structure.
Cada día que pasa la vida es más dura, el tráfico te mata, policía dura, maquiladoras que costuran huesos, maquiladoras para tu progreso. Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Quiere tu país, quiere tu país, quiere, lo quiere, lo quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere, lo quiere, lo quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere, lo quiere, lo quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere, lo quiere. lengua muere en la locura del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial. Tenemos que abrir esos muros del miedo, poner e imponer nuestra propia palabra. Y a los políticos y dirigentes que no rejuntan ya tanta gente, que se comporten como la gente, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca nunca le queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca nunca le queda nada. Quiere tu país, quiere tu país, quiere lo que
Alors vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors cette semaine, nous sommes au Nicaragua et nous parlons du féminisme.
Ni vida la decido yo, ni el gobierno, ni la iglesia. Sí al aborto terapéutico.
Sí es Papa Mariela.
El aborto sería un sacramento.
Alors aujourd'hui, il y a Ortega qui est revenu au pouvoir. En France, beaucoup de gens ont une image relativement positive. Ils se disent que c'est le retour de la gauche en Amérique centrale, que ça correspond aussi à tout un mouvement en Amérique latine qui est relativement bien vu d'une partie de la France. Mais pour les femmes, c'est pas forcément cela, puisqu'on a vu qu'il avait voté la loi pénalisant l'avortement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Alors Daniel Ortega, en fait, je vais parler de la loi de la pénalisation complète de l'avortement, y compris de l'avortement thérapeutique. Mais Daniel Ortega a un passif par rapport aux femmes qui a littéralement vu le jour et explosé dans l'opinion publique en 98 quand Soyla América, sa belle-fille adoptive, donc la fille de Rosario Murillo, quand Soyla América a dénoncé publiquement son beau-père pour abus sexuels, viol, y compris multiples, chose qu'on ne relève pas souvent, enfin qui est dans le témoignage de Soyla América, harcèlement sexuel ensuite. Et donc, Daniel Ortega a tout fait dans le cadre du pacte, mais ça aussi ça fait partie du contexte nicaraguayen, quand Alemán est élu en 96, et quelques temps après, un pacte se noue en fait entre le parti libéral constitutionnaliste, Alemán d'un côté, et Daniel Ortega de l'autre, un pacte autour d'intérêts économiques, d'intérêts politiques, et Soyla América va jouer une pièce maîtresse dans ce pacte, puisque Daniel Ortega va tout faire pour ne pas être inculpé dans un premier temps, et puis va faire en sorte de laisser traîner l'affaire au gré de ce pacte pour, dans un second temps, ayant une certaine mainmise sur la justice, faire en sorte que la plainte ne soit pas reçue, en fait, ce qui s'est réellement passé. Mais donc, autour de cette polémique et cette controverse Soyla América, ce qui est intéressant, c'est qu'une boîte de Pandore réellement a été ouverte, où il y a eu pas mal de divisions, enfin en tout cas de frictions au sein des mouvements de femmes, hein, qui pour beaucoup, de toute façon, sont nés d'Anla et sont nés du sandinisme, et qui, moi je me souviens d'une d'une leader du réseau des femmes contre la violence me disant mais ça a été, pour nous ça a été une bombe cette affaire, et même à titre personnel c'était très compliqué à gérer parce que Daniel Ortega c'était l'homme qui voulait gouverner par en bas après la victoire de Violeta Chamorro, et c'était le, voilà, le frère, le père de la révolution, et on ne voyait pas de... Même si on avait beaucoup de critiques faites au machisme des dirigeants sandinistes au cours des années 80, enfin c'était, ça restait quand même impensable que ce soit à ce point compatible d'être révolutionnaire dans la sphère publique et d'être, en tout cas, elle ne pouvait pas dire violeur parce que, ça, comme il n'y a toujours pas eu de décision judiciaire par rapport à cette affaire, on ne pourrait pas aller jusque-là, mais en tout cas, quelqu'un qui ne voulait pas se confronter à la justice pour des accusations aussi graves. Donc ça a été une bombe qui a ouvert une boîte de Pandore qui ne s'attarie toujours pas. Des femmes ont parlé et leur exercice devant l'opinion publique a consisté essentiellement à dire ça, à dire... Enfin, c'est une histoire connue, quoi. La lutte des classes ne suffit pas. Enfin, l'émancipation des femmes par la révolution n'est pas suffisante, voire elle peut parfois être, en fonction de nos leaders, même une maxime pleine de contradictions, quoi. Donc ça, c'est le premier passif de Daniel Ortega. Soy la América étant une pièce maîtresse, y compris dans les arrangements institutionnels qui ont eu lieu à la fin des années 90, 99-2000. Puisque, donc, d'un côté, Daniel Ortega demandant qu'on préserve son immunité à l'Assemblée nationale pour ne pas être inculpé donc, des crimes qui lui étaient reprochés par Soy la América, et de l'autre, Aleman, donc, voilà, par rapport à ces inculpations de corruption, en fait. Donc ça, c'est le premier passif qui a vraiment scellé... la distanciation des femmes qui étaient sandinistes à l'égard du parti Front Sandiniste de Libération Nationale. Et puis alors cette année a continué en fait de surprendre. En même temps c'était une surprise, une surprise annoncée, très très choquante, y compris pour les femmes du Front Sandiniste elles-mêmes, très choquante y compris pour les femmes qui n'étaient plus dans le Front Sandiniste et qui a été dans un premier temps... la déclaration de Rosario Murillo, donc disant le Front Sandiniste s'engage dans la foi, nous sommes un peuple profondément chrétien, et le Front Sandiniste de Libération Nationale et donc l'Union Nicaragua Triunfa va rester dans ce sens-là. Et donc oui à la vie, non à l'avortement. Ça a commencé comme ça cette année, en termes d'autres bombes politiques qui a surpris pas mal de gens. Et puis ça s'est conclu par le fait que 28 députés sandinistes, bon, la droite, il fallait pas attendre grand chose par rapport à l'avortement thérapeutique, puisque ça faisait très longtemps que ce soit Montealegre, le candidat à la présidentielle anti-pacte, et ou José Rizo, le candidat à la présidentielle du parti d'Arnaldo Alemán. Bon, eux, on savait que, on connaissait déjà leur position. De la part du Front Sandiniste, on s'attendait à peu près à tout, mais ça a quand même été une surprise pour pas mal de femmes. 28 députés sandinistes ont voté pour la pénalisation de l'avortement thérapeutique. Sans eux, l'avortement thérapeutique serait encore légal aujourd'hui au Nicaragua. Et voilà, et donc les mouvements de femmes aussitôt ont, déposé un recours d'inconstitutionnalité devant la Cour suprême de justice, et on attend les résultats. Elles sont assez pessimistes dans la mesure où, en toile de fond quand même, de cette décision à l'Assemblée nationale de la part des 28 députés sandinistes en question. En toile de fond, c'est une alliance très nette au nom de la réconciliation entre l'Église catholique et son tenant Miguel Obando y Bravo et Daniel Ortega. Et depuis en fait l'affaire Soy la América et la défense de Daniel Ortega par son épouse Rosario Murillo, cette alliance est extrêmement nette, en fait. Beaucoup de réunions publiques ont eu lieu avec Miguel Obando y Bravo et la famille de Rosario Murillo et Daniel Ortega. À l'investiture de Daniel Ortega en janvier de cette année, Miguel Obando y Bravo, qui est censé être un cardinal à la retraite, était quand même là pour... était là alors que l'État nicaraguayen est laïque, constitutionnellement parlant, contrairement au Costa Rica, par exemple. Donc voilà, donc au nom de la réconciliation, Daniel Ortega et de l'alliance avec l'Église catholique et d'une certaine alliance aussi avec les Églises évangéliques, Daniel Ortega a sacrifié sur l'autel de l'Église et de la réconciliation plus généralement le sort des femmes. On compte aujourd'hui une trentaine de femmes. Il y a une étude qui est faite un peu actualisée au jour le jour par l'Organisation panaméricaine de la santé. 30 femmes sont décédées déjà à cause de cette décision. Donc, juste un petit rappel, l'avortement thérapeutique était autorisé au Nicaragua en cas de grossesse suite à des viols, en cas de risque pour la santé des femmes, en cas d'une grossesse à risque, en fait, ou en cas de malformation ne permettant pas la vie des fœtus après la naissance, en fait. Voilà, je pense qu'il y a depuis 98 et le choc Soy la América jusqu'à aujourd'hui, il y a au Nicaragua un front sandiniste qui fait fi des droits des femmes au profit du leadership incontesté, toujours au Front Sandiniste de la Libération Nationale, de Daniel Ortega.
Et s'il est interdit d'avorter, est-ce qu'il y a des mouvements qui font des avortements illégaux, qui organisent un certain système parallèle?
Le système parallèle existe depuis longtemps. un système parallèle qui existe depuis longtemps, des ONG locales qui pratiquent des avortements, des médecins qui les pratiquent aussi. Mais la plupart des avortements auxquels ont accès les femmes sont des avortements clandestins. Sans bonnes conditions ni d'hygiène, sans aucune garantie en fait sanitaire.
Et d'un point de vue économique, j'imagine que les plus riches doivent aller peut-être au Costa Rica ou aux États-Unis pour aller se faire avorter.
Les plus riches qui ne voudraient pas aller vers ces ONG-là vont ailleurs, ou alors elles peuvent rester au Nicaragua pour avorter. Il est possible d'avorter au Nicaragua moyennant finance et moyennant bonne entente avec le médecin qui le pratique.
Et quel est le niveau d'accès aux contraceptifs au Nicaragua? Est-ce qu'il y a une bonne éducation au niveau de la santé pour les femmes, ou est-ce que c'est très compliqué? Quel est le rôle de l'Église aussi dans tout ce qui est des questions de sexualité?
Je crois que c'était sous Violeta Chamorro déjà, mais aussi sous Arnoldo Alemán, un manuel de sexualité en fait, qui avait été écrit par les courants anti-choix, anti-avortement, et qui c'était pas une éducation sexuelle scientifique, mais une éducation sexuelle largement marquée par le catholicisme. Après, c'est à la charge, une éducation sexuelle scientifique, etc., est à la charge des ONG de femmes qui sont bien implantées. Il y a énormément d'ONG de femmes au Nicaragua, beaucoup de collectifs de femmes. Enfin, le mouvement de femmes nicaraguayen est extrêmement bien implanté, extrêmement fort, assez vigoureux. L'un des plus vigoureux d'Amérique latine. Je sais pas, je peux pas comparer, mais en tout cas, c'est la réputation qu'elles ont. Donc, je pense que la seule éducation scientifique vraiment sexuelle et l'accès aux contraceptifs. Vraiment, c'est du côté des ONG de femmes qu'on peut trouver ça. Je crois qu'il y a un relativement bon accès aux contraceptifs dès lors qu'on n'est pas dans des dès lors qu'on est dans les zones urbaines en fait. C'est beaucoup plus compliqué pour les femmes des zones rurales.
Oui, justement là, j'imagine qu'il doit exister aussi des mouvements de femmes indiennes ou des minorités. Est-ce qu'il y a un certain dynamisme à ce niveau-là?
Alors, je connais assez mal. C'est un défaut qu'on a, je crois, quand on étudie... Enfin, en tout cas, c'est un défaut que j'ai eu, moi, à l'étude des Nicaragua. C'est que il y a deux pays, vraiment, Nicaragua, en fait. Il y a la côte caribéenne, elle-même, avec des identités très différentes selon qu'on soit au nord ou au sud. Et puis, la côte pacifique, c'est vrai que mon étude, j'avoue, humblement, porte sur la côte pacifique. Donc, je connais un peu moins bien les mouvements caribéens et afrodescendants, mais elles sont, enfin, les femmes, enfin, je pense au mouvement Nidia White, par exemple, Voces Caribeñas, y a des mouvements bien implantés et revendicatifs, y compris en termes identitaires, sur la côte caraïbe, oui.
Est-ce que le mouvement féministe nicaraguayen a des liens avec les autres mouvements féministes d'Amérique latine ?
Oui, alors elle participe beaucoup, enfin, c'est toujours une élite hein, qui participe beaucoup aux rencontres latino-américaines, aux rencontres continentales. Elle participe largement, je crois, enfin, ces élites-là nicaraguayennes, à ce qu'on appelle la transnationalisation des mouvements féministes nicaraguayens, que ce soit le réseau des femmes pour la santé, voilà. Je pense aussi au mouvement La Corriente, qui est une réunion de collectifs centra-américains. Oui, elles sont largement, elles ont été présentes à Pékin. Et donc dans ces cadres-là, en fait, de forums internationaux ou de rencontres féministes internationales ou disons régionales, elles sont présentes, mais c'est toujours réservé à une certaine élite des mouvements de femmes, en fait.
Et quand il y a eu la loi sur l'avortement, est-ce que les autres mouvements féministes latino-américains ont réagi, ou est-ce que la situation est relativement similaire en Amérique latine sur l'avortement ?
Par rapport à l'avortement thérapeutique, enfin, l'avortement est complètement interdit en Amérique latine, au Salvador, au Chili et maintenant aussi au Nicaragua. Il y a eu un mouvement de solidarité. Beaucoup de lettres des ONG, beaucoup de lettres des coopérants, bon, ça c'est hors mouvement féministe en tant que tel, mais oui, des mouvements de solidarité, oui, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je crois que pour l'instant, comme la première étape, en fait, c'est d'avoir interposé ce recours devant la Cour suprême de justice, je pense que dans un premier temps, la bataille et la résistance est nicaraguayenne. Ensuite, je pense qu'il y aura des démarches devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et donc là, il y aura des mouvements, un mouvement peut-être plus régional par rapport à la situation particulière de l'avortement. Mais il y a eu beaucoup de lettres, y compris une lettre du Parti socialiste français qui s'est prononcée, je crois que c'était le seul, qui s'est prononcée sur le Nicaragua. C'est intéressant d'ailleurs de voir ça, parce que le FSLN étant dans l'international socialiste encore, c'est quand même, enfin, politiquement, c'est un geste. Et puis la France, par la voix de son ambassadeur, s'est aussi prononcée. Les coopérants suédois qui ont de forts apports budgétaires au Nicaragua se sont prononcés. Enfin, il y a eu une mobilisation internationale, oui.
Et qu'est-ce que nous, individuellement, on pourrait éventuellement faire en solidarité ?
Signer des pétitions. Il y en a eu une promue par le mouvement autonome des femmes juste après le 26 octobre. Continuer de signer des pétitions. Je crois que ce qui est intéressant, nous, c'est qui nous ? C'est les Européens, les... c'est ça,
ouais.
Nous, je pense qu'il y a deux choses. Il y a saisir, en fait, être vigilant et accompagner depuis nos espaces, en fait, les revendications pour la dépénalisation de l'avortement en Amérique latine, en particulier au Nicaragua peut-être, enfin, au Salvador, au Chili, etc. Et être vigilant, je crois aussi, enfin, surtout à gauche, étant donné que, bon, à droite, on a bien compris que la droite latino-américaine, par rapport à l'avortement, enfin, à part peut-être des brebis égarées que je ne connais pas, enfin, qui seraient plus clémentes par rapport à ce thème... C'est un euphémisme, enfin voilà, mais je crois que le défi pour nous, pour les personnes en tout cas qui se revendiquent de gauche, altermondialiste, etc., c'est d'être vigilant sur, par rapport à cette alliance très nette qui existe aujourd'hui entre l'Église et une gauche qui... sous couvert de réactualisation de la lutte des classes, de lutte contre le néolibéralisme, peut conduire à asseoir le populisme d'un seul au mépris des droits des femmes, en fait. Et je pense que la... Je pense qu'il y a une vraie vigilance à exercer par rapport à ça, ne pas céder à un pragmatisme qui en plus est assez européo-centré, je crois, ou je sais pas comment qualifier ça, mais pays développé centré, qui consiste à dire qu'il y a deux poids deux mesures et qu'on est dans un pragmatisme politique face à des opposants terrifiants du néolibéralisme, etc. Voilà, on pourrait continuer de tenir ce discours de prioritairement la lutte des classes et en second lieu, du mieux possible, le féminisme et la lutte contre les diverses formes d'articulation des dominations, de race, sexe, sexualité, classe. Je pense que la vigilance, elle est aussi intellectuelle. Je pense que le défi, il est aussi là, en fait. Jusqu'où on peut accepter. Jusqu'où on peut accepter de rester nostalgique de la révolution sandiniste quand on voit, et pas seulement depuis la pénalisation de l'avortement thérapeutique en Nicaragua, depuis Soy l'América, depuis l'impunité arrangée par Daniel Ortega au Nicaragua. Enfin, je crois qu'on a aussi le devoir intellectuel de ranger notre nostalgie, qui en plus pour certains n'a pas... Nostalgie d'événements qui n'ont pas été vécus, en tout cas pour moi c'est le cas, puisque je suis née en 79, donc voilà. Mais cette vision, c'est intellectuelle, oui, ne pas forcément banaliser un discours de Chavez. Par exemple, j'ai reçu un mail hier où de la part d'une collègue féministe où on voyait bien que ce soit en Uruguay, y compris Lula da Silva, Chavez. Voilà, tenir sur l'avortement des propos plus que mitigés, quoi, et pas franchement alliés aux revendications féministes.
Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado malo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor.